Yann, Serrandour est avec nous. Yann, tu présentes pièce pour clavecin jusqu'au 19 novembre. Et tu as pu dire dans une histoire, c'est l'erreur qui fait événement. L'histoire du clavecin est justement assez intéressante à cette image-là, remplie d'erreurs, en tout cas d'obstacles certainement.
D'erreurs, de manque, de vide. En particulier dans l'histoire du clavecin, en effet, il y a une trajectoire un peu particulière, au sens où c'est un instrument qui a été très en vogue au XVIIe, XVIIIe siècle, et à la fin du XVIIIe, il est un peu tombé en désuétude, à la fois pour des raisons de goût, des raisons esthétiques, puisque c'est l'émergence du piano forte à la fin du XVIIIe, les compositeurs ont plutôt délaissé le clavecin pour le piano forte, et aussi pour des raisons politiques, en tout cas en France, puisque avec la Révolution française, énormément de clavecins ont été détruits parce que c'était des symboles aristocratiques. Donc c'est un instrument qui est tombé dans l'oubli pendant une centaine d'années. Et à la fin du 19e siècle, des petites sociétés d'amateurs ont eu un regain d'intérêt pour la musique baroque et son exécution sur des instruments d'époque, des instruments historiques. Mais les instruments, il n'y en avait plus beaucoup. Et puis, n'était pas forcément jouable dans de très bonnes conditions. Donc, c'est à partir un peu de cette perte du savoir-faire de la construction de, l'appartement, de la construction de l'instrument, et puis des changements d'esthétique, que mon intérêt s'est vraiment porté sur cet instrument. Au-delà des raisons musicales, c'est un instrument dont j'aime beaucoup la sonorité, pour son aspect métallique, aérien, incisif, voilà, c'est un goût pour ce type de sonorité, mais c'est vraiment la trajectoire historique de l'instrument qui m'a intéressé, qui a été un peu la source de cette exposition.
Un des éléments qui peut permettre de redémocratiser justement ces instruments, c'est quand des fabricants s'en emparent. Par exemple, quand on fait des clavecins en kit, c'est le cas ici, tu en proposes un à l'exposition. Qu'est-ce que ça a joué justement, même si bon, c'était pas si facile que ça de monter son clavecin soi-même, quelle influence ça a eu justement sur le fait que le clavecin s'est redéveloppé?
Dans les années 50, en fait, de par les recherches musicales également, il y a eu un intérêt pour rejouer le répertoire baroque sur instruments d'époque. Et comme je le disais tout à l'heure, même problème qu'à la fin du 19e, les instruments étaient encore en moins bon état dans les années 50. Et donc, deux chercheurs américains, dont Frank Hubbard, a commencé à faire des recherches sur la facture historique de clavecins à partir de pièces qui étaient dans des collections privées ou dans des musées, surtout aux États-Unis. Et à partir de l'analyse des instruments ou des épaves qui en restaient, ils ont essayé de voir comment on pouvait reconstituer des instruments pour qu'ils puissent produire un son authentique, entre guillemets. Donc il y a ce fantasme un peu de l'authenticité, de retrouver un son perdu en réalisant des répliques d'instruments historiques. Et donc c'est grâce à ces recherches aussi qu'ils ont développé d'un point de vue commercial, c'est Zuckerman qui a mis ça en place, un principe de kit qui permet aux claveciniste amateur en fait de fabriquer son propre instrument, parce que le clavecin reste un instrument très coûteux à l'achat. Et donc voilà, a été proposé pour démocratiser un peu son accès, en fait, de réaliser soi-même son clavecin, alors soit pour des clavecinistes amateurs, mais également des jeunes clavecinistes qui n'avaient pas les moyens de s'acheter un clavecin, en ont construit, revendu, qui leur permettait ensuite d'acheter un meilleur instrument.
Le clavecin, c'est un instrument aussi pour les personnes très, 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 très exigeantes, un peu perfectionnistes. On peut parler par exemple du disque que tu fais tourner en double, on va dire, qui est la vérité du clavecin, la recherche tout à la fois de la perfection du jeu et la perfection du son. C'est quelque chose que tu recherches aussi, toi, cette perfection-là?
C'est plutôt pour la mettre en défaut. J'ai un gros problème avec l'idée de vérité. Et donc, quand je suis tombé un peu par hasard sur ce disque au cours de mes recherches, Vérité du clavecin, j'ai été frappé par le contraste sur la pochette entre la reproduction photographique d'un clavecin historique Helmsch de 1755, sur lequel le disque a été enregistré, et puis une sorte d'appareil qui a dû servir à la prise de son avec des boutons, etc. Donc plutôt cette idée de reproduire fidèlement la source au moment de l'enregistrement. C'est un disque un peu particulier, le preneur de son. Il a été enregistré en 1977 par un preneur de son qui était très réputé à l'époque. Et donc il y a tout un discours assez technique en fait sur comment restituer fidèlement la prise de son de manière à pouvoir, à travers cette prise de son fidèle, aussi avoir accès à un son qui est censé lui-même être fidèle puisque c'est un clavecin historique. Alors la particularité aussi, c'est que à la différence d'un... Enfin voilà, c'est un clavecin d'époque, mais c'est sûr qu'il ne sonne pas du tout de la même manière aujourd'hui que quand, 2 ou 3 siècles auparavant. Donc il y a déjà un premier paradoxe. Et puis il y a cette idée, en fait, que cette succession en fait, d'intermédiaires, de traduction, de reproduction, serait sans entrave, sans bruit, sans erreur de transmission. Donc mon travail se situe précisément à cet endroit-là, en fait, puisque tu parlais d'erreurs tout à l'heure, dans ces tentatives en fait, de retransmettre fidèlement quelque chose, on se rend compte que c'est un peu un fantasme, c'est quelque chose qui est plutôt impossible, et je suis plutôt intéressé par ces erreurs, par ces paradoxes, parce qu'ils viennent enrichir finalement la trajectoire historique, où on n'est pas du tout dans une ligne droite, mais bien plutôt parfois dans des circonvolutions assez complexes.
On le voit aussi avec ton rapport au support imprimé, par exemple, des œuvres, des supports qui ont leur propre histoire au-delà de celle véritablement de l'œuvre. Comment est-ce que tu collectes les différents supports? Comment est-ce que tu les classes? Comment tu les utilises après dans ton travail de recherche, mais également dans ton travail concret?
Alors le point de départ, souvent, c'est un peu de l'ordre de la trouvaille. Quand j'ai un intérêt pour un sujet, là, en l'occurrence, le clavecin, mais ça a pu concerner également la domestication des chiens ou la culture domestique des cactus. C'est des sujets assez variés, mais qui ont malgré tout tous un rapport, je pense, à l'idée de domesticité et d'ornement. Donc il y a cette dimension de la trouvaille, donc il y a un travail de recherche souvent assez livresque au départ, parce que je suis assez intéressé par la manière dont les choses nous sont retransmises à travers le temps. Et c'est vrai qu'un livre, c'est une manière condensée d'essayer de raconter en un petit volume une trajectoire qui est parfois beaucoup plus complexe en réalité. Et donc le disque, par exemple, Vérité du clavecin, c'est au cours de mes recherches en fait que je suis tombé dessus. J'étais séduit par son graphisme, donc pas du tout pour des raisons musicales, mais plutôt pour son iconographie sur la pochette. Et donc ensuite, les associations qui se font entre ce que j'ai pu lire d'un côté, des images, un disque, des photographies, c'est plutôt une sorte de puzzle. C'est-à-dire qu'il y a une histoire que je découvre un peu au fur et à mesure de mes recherches par fragments. Et ensuite, j'essaye de mettre ces fragments en correspondance, mais pas du tout dans une logique, je dirais, de raconter l'histoire vraie, mais d'en raconter une autre parallèle dans laquelle le rebondissement, le hasard, parfois assez drôle d'ailleurs, a toute sa place.
Le hasard, justement, m'intéresse beaucoup dans ton travail. On peut prendre l'exemple du graphiste avec lequel tu as travaillé pour cette affiche, qui te propose un rose, puis quand même doute un petit peu. Puis là, tu le vois et en fait, il correspond au rose d'une autre œuvre que tu as faite. Là, tu te dis, bon, bah, c'est quoi? Il y a une part de destin, juste que les choses tombent bien au bon moment. Comment ça se passe dans ces cas-là? Qu'est-ce qui se fait que tu te dis, ouais, ok, c'est parti?
Je crois que l'idée d'occasion est très importante dans mon travail, dans le rapport au temps. C'est-à-dire que le travail de recherche, c'est un travail assez lent, assez long, en fait, où on a une sorte de disponibilité à ce qui arrive. Et à un moment donné, il y a des signes comme ça, des choses qui font sens par rapport au parcours qu'on a déjà entrepris. Et ce rose, en fait, c'est donc Jocelyn Cotensin qui a réalisé l'affiche avec moi, m'a proposé à un moment donné d'écrire le texte du récital avec cette teinte. Parce que en faisant des recherches sur un peu l'esprit du 18e, il a regardé pas mal d'images de clavecin, etc. Il trouvait que c'était une teinte, une couleur qui revenait assez souvent. Donc il m'a proposé cette couleur en pensant que ça allait pas trop me plaire. Et puis comme j'avais réalisé en effet un projet avec un rose très très approchant, quand j'ai réalisé une œuvre à partir d'un ouvrage sur Watteau, donc on est dans le même siècle. À un moment donné, ça a fait sens en fait par rapport à quelque chose qui était déjà là, Donc voilà, je me fais beaucoup guider dans mon travail par ces coïncidences. Donc je peux jamais dire en fait a priori où ça va aller. C'est-à-dire qu'il y a voilà, une recherche, il y a une situation d'attente et des occasions qui se présentent où les signes commencent à se répondre les uns aux autres et c'est comme ça que je construis l'exposition. Petite manipulation comme ça, un ampli un peu haute fidélité. Là. Alors il faut commencer par, voilà, dans le bon ordre, j'allume l'ampli. Ensuite, je règle le volume. Voilà, ça devrait être pas mal. Ensuite, j'introduis les petites baguettes à travers la vitrine. Et je vais pouvoir déclencher la pièce.
Travail, tu as beaucoup tendance aussi à détourner des anciennes œuvres. On peut voir par exemple que tu vas prendre la photo d'un bout d'un cadre ou des choses comme ça. Moi j'ai un exemple à te citer qui est en plus lié au clavecin. J'ai un prof de musique qui adorait justement la musique baroque et qui nous faisait tout sur le clavecin parce que pour lui c'était la musique la plus juste, l'instrument le plus juste, le piano c'était pas juste. Et un jour il prend dans la classe comme ça et il demande qu'est-ce que ça vous inspire? Et donc c'était pour une harmonie. Et moi je lui dis je trouve que c'est hyper disco. Et alors là, c'est énervé comme pas permis. Et justement, il y a pas mal de gens qui ont un rapport assez religieux comme ça à leur travail ou au travail des autres. Comment est-ce que toi, des fois, tu te retrouves, ça t'arrive de te retrouver confronté à des gens qui disent, oh, mais comment il a osé faire des choses pareilles et comment tu fais dans ces cas-là?
En général, c'est vrai que je ne suis pas forcément très autorisé. Je ne suis pas du tout spécialiste de cet instrument. C'est quelque chose que j'ai découvert un peu par curiosité. Et donc, c'est vrai que les gens pour qui c'est vraiment la spécialité, etc., sont parfois un peu surpris ou amusés, dans le meilleur des cas, par ce que je peux en faire. Mais disons que ce n'est pas du tout une parole d'autorité, donc ça permet certains écarts. Et puis, disons que les raisons pour lesquelles, en fait, je m'intéresse à cet instrument dans l'exposition, elles sont liées, au-delà de l'instrument, à une réflexion que je peux essayer de mener sur la question de la transmission à travers le temps. Donc c'est vraiment ces choses-là, ces opérations de traduction, de transmission, qui m'intéressent. Et le clavecin est un exemple intéressant pour moi parmi d'autres, notamment par rapport à cette idée du son qui a été perdue, et puis l'envie qui me surprend beaucoup, hein, l'envie de retrouver son authenticité dans le milieu de la musique baroque ou de la facture instrumentale. Il y a un peu deux écoles. Par exemple, au début du XXe siècle, Wanda Ladowska, qui est une interprète polonaise très importante pour le regain d'intérêt pour le clavecin, avait fait construire par Pleyel un clavecin, mais plutôt on ne savait plus fabriquer des clavecins à l'époque. Et donc Pleyel lui a construit un clavecin plutôt sur le modèle d'un piano, avec un châssis métallique, un instrument beaucoup plus lourd qui n'a pas du tout la même sonorité. Donc elle interprétait le répertoire baroque sur un instrument qu'on qualifie de moderne aujourd'hui. Et c'est vrai que dans les années 50, il y a eu vraiment l'envie, le souci, à 50-60, de retrouver, de rejouer vraiment, non pas sur des clavecins modernes, le répertoire baroque, mais sur des instruments d'époque ou leur réplique. Et donc au XXe, on trouve un peu ces deux écoles, entre le clavecin moderne qui sont relégués dans les couloirs, dans les conservatoires, et le clavecin de facture historique. Faut savoir que un certain nombre de compositeurs au XXe siècle ont composé pour le clavecin, mais plutôt pour le clavecin moderne. Il y a des pièces de Ligeti, de Xenakis, etc., qui sont plutôt écrites pour jouer sur un clavecin moderne, puisqu'ils ont découvert cet instrument, ils l'ont écrit pour cet instrument-là. Donc il y a des débats aussi aujourd'hui, est-ce qu'on doit jouer Ligeti sur un clavecin du XVIIIe ou sur un clavecin des années 60?
De grands débats. Peut-être parmi les débats, Sophie Kaplan, tu travailles beaucoup avec elle, elle est la commissaire de cette exposition, mais vous avez travaillé aussi avec Félicia, Julien et Yann, qualifiés d'inventeurs, activateurs, remixeurs d'histoire. Donc Yann, c'est toi, hein, donc Félicia et Julien, c'est plutôt sympa de se faire décrire comme ça. C'est pour l'exposition Alors que j'écoutais, moi aussi, justement, l'exposition collective, c'est pour bientôt. Comment ça s'est déroulé? Plutôt pacifiquement, plutôt dans le débat, plutôt dans la confrontation?
Ouais, ça a été des moments de travail très agréables. Sophie a pris un certain risque, mais elle l'avait peut-être mesuré par avance. On ne se connaissait pas, enfin, on connaissait le travail des uns et des autres, mais on ne se connaissait pas, Félicien, Julien et moi. Et elle a souhaité qu'on travaille ensemble sur le cycle, alors que j'écoutais moi aussi, donc avec deux expositions collectives qui ont amorcé et qui finiront le cycle. On va travailler ensemble aussi sur une publication. Et donc trois expositions personnelles. La particularité du dernier volet de l'exposition qui ouvrira mi-décembre, non mi-novembre, pardon, je ne sais plus la date exacte, mais après mon exposition, c'est que en fait on a réinvité les mêmes artistes ou à peu près qu'à la première exposition du cycle pour avoir une sorte de pendant, jouer avec la mémoire aussi qu'on peut avoir de la première exposition comme un second volet de l'histoire. Et ce qui était très agréable quand on travaillait ensemble, c'est que c'est des rebondissements permanents. C'est-à-dire qu'on peut avoir un certain goût pour tous les trois, tous les quatre, pour la question de l'imprimé, du livre, de la publication. Mais on est sur des champs de références parfois qui sont très différents. Et donc, moi, j'ai appris beaucoup de choses avec Julien et Félicia. Ça m'a permis de m'aventurer sur des terrains que je connaissais moins. Et donc c'est vraiment dans une forme de dialogue, de rebond. Il y en a un qui propose quelque chose, l'autre rebondit, ça fait sens par rapport à ça. Et vraiment, le projet s'est construit de cette manière-là. Et j'espère que la publication sur laquelle on va travailler sera le reflet aussi de cette dynamique.
Un beau laboratoire, alors, pour vous trois, cette criée Centre d'art contemporain. L'art contemporain à Rennes, c'est aussi le FRAC, c'est la galerie Art et Essai sur le campus, notamment dirigée par John, que tu connais bien. Il y a quand même un beau réseau, même ici à Rennes, là, il y a la rentrée des arts visuels. Qu'est-ce que ça apporte? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y a des critiques peut-être à faire? Parce que de loin, on a l'air de penser que c'est super complet et tout ça, mais comment ça se passe à Rennes pour l'art contemporain?
Écoute, moi j'étais plutôt très satisfait de l'expérience ici. C'est pas souvent qu'on travaille dans sa ville, puisque j'y habite aussi. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment agréable. Et je trouve qu'il y a un tissu à Rennes qui facilite vraiment les échanges entre ces différents lieux. Je crois que ça caractérise assez bien Rennes, en tout cas dans le champ de l'art contemporain. On arrive à travailler ensemble, il y a beaucoup de passerelles d'un lieu à un autre. Donc je trouve qu'il y a une dynamique qui est vraiment bonne. Et au-delà même de l'art contemporain, puisque je vois dans le cadre de mon exposition, dans le cadre des quatre récitals qui sont organisés, un partenariat a été fait aussi avec le conservatoire. Donc c'est essayer de voir sur une ville qui n'est pas une grande ville, mais finalement les gens arrivent à travailler ensemble. Et je trouve que ça, c'est une des belles qualités qui, j'espère, va perdurer.